à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 27 février. C'est la fête, sur la plupart des calendriers, de Saint-Léandre. C'est très intéressant, Saint-Léandre. C'était un évêque à Séville, oui, en Espagne, dans un moment très étrange. Et il avait deux frères évêques et une sœur religieuse. Et les quatre sont des saints au calendrier. C'est plutôt rare, hein? C'est aussi la fête d'une bienheureuse qui est morte en 1484 et qui avait un nom très étrange. C'est la journée des noms curieux aujourd'hui. La bienheureuse Eustochium Calafato. Imaginez, baptiser un enfant Eustochium, une femme en plus de ça. Et c'est la fête du bienheureux Jean de Vandière, dont je vous parlerai, un abbé bénédictin. On parle aussi de Saint Galmier, qui est mort vers 650. C'est pas ce nom, Galmier. G-A-L-M-I-E-R. Galmier. Bien oui, pourquoi pas. C'est aussi l'anniversaire du décès aujourd'hui de Lamennais, le pauvre et malheureux Lamennais. Quand on lit sa vie, on est bouleversé. Vous savez que ce prêtre avait quitté l'Église au siècle dernier. Et son frère Jean, qui était prêtre aussi, s'est mis en route pour Paris pour essayer de l'aider à mourir à l'intérieur de l'église. Il a appris que tout était fini, mais avant de mourir, quelques heures plus tôt, Madame de Kertanguy, sa nièce, lui avait dit « Mon oncle Félix, c'est au nom, c'était Félicité de Lamennais. Veux-tu un prêtre? Tu veux un prêtre, n'est-ce pas ?» Et Lamennais, l'ancien abbé Lamennais, lui avait répondu « Non ». Et comme elle insistait, il avait crié « Non, 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 qu'on me laisse en paix ». Et le lendemain, à 9h du matin, il rendait son dernier soupir et son frère, qui était très fidèle à l'église, en avait pleuré. C'est survenu le 27 février 1854. Quelques années plus tard, en 1869, est mort Lamartine. On lit plus ça, mais Lamartine, aujourd'hui, on lisait ça, nous, quand nous étions jeunes encore. On aimait bien ça. Peut-être encore de la grande poésie que Lamartine. Sa vie a été une vie difficile, troublée. Il est mort le 28 février, donc 1869, très chrétiennement. Hein? On pourrait en parler peut-être un jour. Car c'est toujours consolant de voir que des gens qui sont des pécheurs, quoi, des gens qui ont des vies difficiles, sont quand même morts très chrétiennement. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors je passe donc à des saints et à de grands saints. Saint Léandre, évêque de Séville, mort en 596. Il est né à Carthagène, en Andalousie, donc en Espagne. Entre les années 535 et 540, on n'attachait pas tellement d'importance à l'année de la naissance dans ce temps-là. Hein? On voit encore ça dans certains peuples. On leur demande « En quelle année êtes-vous né ?» Ils ont 25 ans approximativement et ne le savent pas. C'est très curieux. Je pense que ça n'existe plus là en 96. Mais j'ai vu ça, moi, dans les années 60. Son père, à Saint-Léandre, s'appelait Severianus. C'est comme son nom l'indique, il était probablement d'origine gréco-romaine. Saint Léandre était le frère aîné de Saint Isidore, dont je vous ai parlé au tout début de cette série d'émissions, le 10 mai dernier. Saint Isidore a été d'ailleurs son successeur comme évêque de Séville. On le commémore le 4 avril. Son autre frère, Saint Fulgence, était évêque d'Égira. Il avait enfin une sœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'aurais pu mentionner le 14 janvier dernier, Sainte Florentine, qui s'est consacrée à Dieu. Elle s'est faite religieuse. Et quant à Léandre, il est devenu moine, très tôt, lui. D'abord à Saint-Claude de Léon, la grande ville de Léon, puis à Séville. Si vous êtes jamais allé à Séville, allez-y. C'est bien passionnant, la ville de Séville. Sa famille s'était réfugiée là après avoir quitté Carthagène. La formation monastique qui avait été donnée à Léandre lui avait formé l'esprit, hein, lui avait donné un esprit de dévouement. Les monastères étaient des centres de dévouement, ils le sont toujours. Pensons simplement, ici à Saint-Benoît-du-Lac, au dévouement de nombreux moines auprès des drogués, auprès des gens perdus, des gens qui n'ont plus d'espoir, les gens qui ne savent plus où se réfugier, et qui vont à Saint-Benoît-du-Lac ou à la Trappe d'Oka, ou chez les cisterciens de Rougemont pour essayer de trouver un sens à leur vie. On ne leur a à peu près jamais enseigné ce qu'ils faisaient sur cette terre. Et là, ils voient des hommes qui ont trouvé un sens qui leur semble bien mystérieux, puisque ces hommes vivent ensemble, prient ensemble toute la journée, 7 jours par semaine, 365 jours par année, jusqu'à leur mort, tant ils aiment Dieu. Ils savent pourquoi ils vivent. Et alors donc, il a reçu cet esprit de dévouement et de discipline qui lui a permis d'exercer une très grande influence sur l'avenir de son pays, l'Espagne. Devenu évêque de Séville en 579, donc vers l'âge de 40 ans, il a créé tout d'abord une école qui était destinée à propager, en même temps que la foi orthodoxe, la foi véritable, l'étude de tous les arts, puis de toutes les sciences connues à l'époque. Une école très importante à Séville. Cet évêque, d'ailleurs, aimait bien présider lui-même aux exercices des maîtres. Là, il essayait de les former, de les diriger, de les animer. Pour lui, c'était extrêmement important. Alors, il y a eu de nombreux élèves et qu'il a attirés dans cette école. Et parmi les élèves de cette école, on a compté les deux fils du roi Léo Vigilde. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le jour où je vous parlerai de noms rares. Léo Vigilde, L-E accent aigu, O, comme Léo, et dans sans trait d'union, le Vigilde, V-I-G-I-L-D. Les deux fils s'appelaient Herménégilde et Récarède. Récarède. On peut rire, mais c'est pas si laid. Finalement, Récarède, quand on y pense, si vous cherchez des noms rares, vous pouvez prendre ça en note là, pour vos petits-enfants ou vos enfants à naître. Alors, Saint-Léandre a réussi à convertir l'aîné Herménégilde dans l'école. Il l'a fait abjurer l'arianisme, ce mouvement dont je vous ai souvent parlé. Le mouvement chrétien qui niait la divinité du Christ. Et puis, cet exemple a été suivi par beaucoup d'autres. Alors, le prince Herménégilde a d'abord été affermi dans la foi, telle qu'elle avait été énoncée au concile de Nicée. Et il a été appuyé par sa femme Ingonde, I-N-G-O-N-D-E, Ingonde, qui était une princesse française, une princesse franque. Elle était la fille du roi Sigebert et de la célèbre Brunehaute. Tous des beaux noms, des beaux noms de baptême pour nos jours. On cherche des noms rares. Hein. Alors, Ingonde, la femme d'Herménégilde, avait su résister à des violences vraiment brutales de sa belle-mère, qui était la femme du roi Léo Vigilde, qui était une ardente arienne, elle. Elle donnait ainsi au roi un exemple de constance qui devait finalement, lui, le conduire au martyre. Le roi Léo Vigilde, en transférant de Séville à Tolède, la capitale du royaume des Visigoths, avait associé son fils aîné Herménégilde à la royauté, puis lui avait donné le siège de Séville, où Saint-Léandre était évêque. Alors il résidait à Séville. Il y avait une persécution arienne contre le catholicisme qui courait en Espagne, comme elle courait un peu partout. Ça a bientôt éclaté. Puis avec elle, mais la guerre civile. Alors Léo Vigilde, le roi, a usé de tous les moyens pour faire prévaloir l'hérésie arienne. Il a gagné même quelques évêques. Puis, il a condamné à la prison et à l'exil ceux qui, comme Saint-Léandre, avaient tenu tête à ces violences. Dans la description qu'il a donnée de l'état de son pays, sous le joug de ce persécuteur, le roi Léo Vigilde, Mais Saint Léandre a écrit qu'on n'y trouvait plus un homme vraiment libre, tellement c'était une dictature épouvantable qui fait penser à celle des pays communistes d'il n'y a pas longtemps, ou de l'Allemagne nazie. Hein. Plus un homme vraiment libre, écrit Saint Léandre. Alors, ce père dénaturé qu'était Léo Vigile, le roi, a fini par assiéger son fils, Herménégile, qui était devenu catholique, dans la ville de Séville. Et le jeune roi a été fait prisonnier. Il a été mis en demeure de communier de la main d'un évêque arien, un évêque qui ne croyait pas à la divinité du Christ. Donc. Il a préféré mourir, imaginez, il a été égorgé dans sa prison. Le samedi saint de l'an 585, il est commémoré le 13 avril au calendrier des saints de l'Église catholique. Et pendant cette lutte de plusieurs années entre le père arien et le fils catholique, et avant d'être lui-même exilé, Saint Léandre avait été envoyé à Constantinople par le jeune roi Herménégilde pour y réclamer le secours de l'empereur byzantin. Vous savez qu'entre Constantinople et l'Église catholique, il n'y avait pas de division dans ce temps-là. C'était une seule et même Église, la grande Église orthodoxe catholique, ou catholique orthodoxe, ou catholique, ce que vous voudrez. C'est que 500 ans plus tard que ce schisme va surgir entre nos deux grandes Églises. Quel dommage, hein? Et là, bien, un moine évêque envoyé, ce moine évêque, n'est-ce pas, envoyé d'un prince martyr, Herménégile, prince martyr de l'orthodoxie, de la foi orthodoxe, de la foi catholique plus solide, là, a fait la rencontre d'un autre moine, un moine bénédictin, celui-ci, l'un des premiers moines bénédictins et l'un des plus grands de l'histoire, car il était réservé aux plus hautes destinées, c'était le futur pape Grégoire le Grand, dont je vous parlerai très bientôt, le 12 mars. Là. Et entre le moine bénédictin Grégoire et le moine évêque Saint Léandre, s'est formée une de ces fortes amitiés dont j'aime à trouver des exemples dans la vie des saints. C'est tellement beau, ces amitiés. Une immense amitié. Soit dit en passant, c'est sur les instances, d'ailleurs, de Saint Léandre que Saint Grégoire a entrepris d'écrire un livre très merveilleux, c'est les Morales sur Job. Hein? Un très beau livre, sur la pauvreté et l'amour de Dieu. Quand on perd tout et qu'on sait que Dieu nous aime et qu'on l'affirme, hein? Ça peut étonner les gens. Et on cesse de dire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu pour qu'il m'arrive telle affaire? C'est une affaire épouvantable. C'est une espèce de blasphème, ça. Dieu ne nous punit pas, Dieu ne nous fait pas souffrir, hein? Cette amitié fantastique qui existait entre ces deux hommes, c'est tellement superbe, c'est dans la correspondance de Saint Grégoire. Je vais vous en citer un bref passage. C'est très beau, hein? Un homme qui écrit un autre homme, un saint qui écrit un autre saint, un moine qui écrit un autre moine, un futur pape qui écrit un évêque, quoi. Absent de corps, vous êtes toujours présent à mes regards. Car je porte gravé au fond de mon cœur les traits de votre visage. Vous saurez lire dans votre propre cœur quelle soif ardente j'ai de vous voir, car vous m'aimez assez pour cela. Quelle cruelle distance me sépare. Je vous envoie mes livres. Lisez-les avec soin et pleurez mes péchés, puisque j'ai l'air de savoir si bien ce que je fais si mal. Et une autre fois, il écrit, c'est encore plus beau. J'ai reçu votre lettre tracée avec la plume de la charité. C'est dans votre cœur que vous avez trempé cette plume. Les gens sages et honnêtes qui ont entendu la lecture, qui en ont entendu la lecture, ont été émus jusqu'au fond des entrailles. On semblait non seulement vous entendre, mais vous voir avec toute la douceur de votre âme. Tous se sentaient enflammés d'admiration, et cette flamme de vos auditeurs manifestait la vôtre, car on n'allume pas le feu sacré dans les autres sans en être soi-même consumé. Oh, je lis ça à l'intention de tous les prêtres, de tous les évêques. Paraît-il qu'il y aurait des évêques qui m'écoutent. On n'allume pas le feu sacré dans les autres sans en être soi-même consumé. C'est une lettre de Saint Grégoire le Grand à Saint Léandre. En lui envoyant le pallium, Saint Grégoire, devenu pape, écrivait à Léandre, t'as vu ce que c'est le pallium, je vous ai déjà dit, c'est une bande d'étoffe de laine blanche, ornée de croix noires, que le pape envoie à certains évêques comme un signe de distinction particulière. Donc, devenu pape, il écrivait à Saint Léandre, « Je vous envoie le pallium, qui doit servir aux messes solennelles. Je devrais en même temps vous prescrire des règles pour vivre saintement, mais vous devancez mes paroles par vos actions vertueuses. Je garderai là-dessus le silence. » On voit par des lettres comme ça en quelle haute estime Saint Grégoire tenait la vertu de Saint Léandre, ce que les Espagnols n'ont pas manqué de remarquer, en disant que l'image de Notre-Dame de Guadeloupe a été un don du pape à l'évêque de Séville, son ami. Il s'agit ici évidemment de la très très ancienne image, et non pas celle de Mexico, là, dont je vous ai parlé le 12 décembre dernier. Elle porte le même nom, Notre-Dame de Guadeloupe. Saint Léandre était rentré de Constantinople en Espagne avant la fin de la persécution suscitée par le roi arien, le Léovigilde. L'évêque Saint Léandre a finalement amené le roi à se repentir. Et ainsi, il a voulu placer son autre fils Récared sous la conduite de Léandre. Et quelques auteurs, cependant, ont mis en doute cette conversion de Léovigilde que Saint Grégoire a rapportée dans ses dialogues. Quoi qu'il en soit, l'avènement du jeune Récared a amené la conversion de l'Espagne. Et Saint Léandre, la conversion de l'Espagne de l'arianisme au catholicisme total. Saint Léandre est revenu à Séville. Puis le nouveau roi, après d'éclatantes victoires remportées sur les Francs, nos ancêtres les Français, les Francs, a convoqué le troisième concile de Tolède en 589. Et Récared, jeune prince, y a lu sa profession de foi, entièrement conforme à celle du concile de Nicée. Il l'a remis écrite de sa main entre les mains des évêques, puis il a déclaré que les peuples réunis des Goths et des Suèves revenez à l'unité. Vous devez vous demander ce que c'est que les Suèves. C'est un peuple de l'ancienne Germanie, l'ancienne Allemagne, qui avait envahi l'Espagne un siècle plus tôt, comme les Visigoths d'ailleurs. Mais les musulmans vont arriver 100 ans plus tard, puis les feront disparaître. C'était terrible. Hein? Les musulmans sont pas tendres à cette époque-là. C'était terrible. Ils venaient d'être fondés, là, ça faisait quelques années à peine, puis ils ont envahi l'Espagne, ils ont envahi toutes sortes de pays. Je voyais à la télévision la conquête de Constantinople, c'est épouvantable. Et alors, Saint Léandre, qui était l'âme de ce concile, a exprimé dans un discours de clôture la joie de l'Église en voyant la conversion des Visigoths. Et chacun des pères de ce concile, les évêques, a rendu ce témoignage, qu'après Dieu, on devait attribuer à Saint Léandre cette conversion à laquelle il avait tant travaillé. Peu de temps après cet événement très heureux, bien Léandre a appris que son ami Saint Grégoire avait été élevé sur le siège de Saint-Pierre en 590 comme pape. Et en lui adressant ses félicitations, il lui annonçait les progrès extraordinaires de la religion catholique en Espagne. Alors Saint Grégoire s'est empressé de le remercier, ou plutôt comme un vrai pape, de remercier Dieu avec lui de tant de succès. Car c'est Dieu qui fait, c'est l'Esprit-Saint qui transforme les cœurs et qui les convertit. Le pape le conjurait en même temps, à cause de leur amitié, d'unir leurs efforts pour l'avancement du règne de Jésus-Christ. Et Saint Léandre a consacré le reste de sa vie à répandre les vérités de l'Évangile, qui étaient nécessaires au bonheur du peuple, qui a continué à former les peuples de l'Espagne par la pratique des vertus. Puis aussi en écrivant des choses admirables. Parmi ses écrits, on peut mentionner le traité en forme de lettre qui était adressé à sa sœur Sainte Florentine. C'est une très belle instruction, ça, sur le mépris du monde, à l'adresse des vierges qui étaient consacrées à Dieu. On a communément appelé ça la règle de Saint Léandre. Je vous en cite un beau passage. « Très chère sœur, » m'écrit-il au tout début, « j'ai cherché quelle richesse et quel patrimoine je pourrais te léguer. Bien des choses me sont venues à l'esprit et je les chasse de mon âme comme on chasse de la main des mouches importunes. » Il y a de l'humour là-dedans, me semble. « De tout ce que j'ai vu sous le soleil, il n'est rien qui soit digne de toi, ma chère sœur. C'est au-dessus des cieux qu'il nous faut chercher la vraie richesse, le don de la virginité. Je suis incapable, ma sœur bien-aimée, d'en vanter le prix. C'est un don caché, ce que tous les saints espèrent être un jour, vous l'êtes déjà. Vous, vierge consacrée au Seigneur Jésus, vous êtes la fine fleur de l'Église. » Vous êtes l'offrande déjà agréée par Dieu. Oh, ma très chère sœur, le Christ est déjà ton époux, ton père, ton ami, ton héritage, ton Seigneur et ton Dieu. Alors à sa sœur, Sainte Florentine, bien Saint Léandre rappelle les obligations. Les obligations qu'imposait, je dirais, l'égalité devant le Christ de toutes les sœurs, hein? Alors, il lui ordonne de regarder comme séparées, comme des sœurs égales à elle, les filles esclaves qui portaient le voile comme elle chez les sœurs. Dans ce temps-là, il y avait des esclaves qui rentraient dans les communautés. Leur naissance, disait Saint Léandre, les a faites esclaves, mais leur profession religieuse en a fait des sœurs. Que rien ne leur rappelle leur ancienne servitude d'esclaves. Celle qui combat avec toi pour le Christ doit se réjouir de posséder une liberté égale à la tienne. C'est un très beau texte qui nous montre combien le christianisme doit être antiraciste et pour la liberté des esclaves. On aime surtout à retrouver dans ce grand esprit, oui, c'était un grand esprit, Saint Léandre, bien différent des grands esprits qu'on nous a montrés à notre télévision pendant des années, sous forme souvent de sarcasme. On aime surtout donc à retrouver dans ce grand esprit les souvenirs de son affection de frère aîné. Il parle aussi de ses souvenirs d'enfance. Il dit « Ne cherche pas », en jouant sur le nom de leur mère, qui s'appelait Turture. Voici un autre nom pour nos enfants. Turture, T-U-R, T-U-R. Pour nos filles, c'est curieux. Alors donc, notre mère qui avait aussi terminé sa vie dans un cloître, hein? Ne cherche pas à t'envoler du toit de la tourte où la tourterelle dépose ses petits. Tu es fille de l'innocence et de la candeur, toi qui as eu une tourterelle pour mère, mais aime encore plus l'Église, cette autre tourterelle mystique qui t'engendre tous les jours à Jésus-Christ. C'est très beau, ça. Il écrit « Repose ta vieillesse sur son sein, sur le sein de l'Église, comme tu dormais autrefois sur le cœur de celle qui soigna ton enfance, notre mère. » C'est très beau de considérer l'Église comme notre mère. C'est notre mère. Ah ouais, elle est ridée, elle a du petit défaut, mais elle a surtout un cœur immense, notre Église. Elle est l'Église des saints. C'est tellement beau, l'histoire d'Église, malgré les faiblesses. Oui, c'est plein de générosité, de saints, de merveilles. Il lui écrit « Ah, sœur bien-aimée, comprends donc l'ardent désir qui enflamme le cœur de ton frère de te voir avec le Christ. Tu es la meilleure partie de moi-même. » Malheur à moi, si un autre allait dérober ta couronne. Puis il écrit, c'est très étrange, tu es mon boulevard auprès du Christ, par lequel je mériterai de sortir de l'abîme de mes péchés. Alors Saint Léon s'est occupé aussi de la formation de son frère, Saint Isidore, qui a été son collaborateur actif dans l'œuvre de la conversion des Ariens et qui devait lui succéder comme évêque de Séville. Ces dernières années ont été remplies par ce que font les saints évêques, pratique des pénitences, les jeûnes, l'étude de la Bible, pratique de l'aumône. Il a été finalement affligé de toutes sortes d'infirmités. Il a été attaqué par la goutte, comme Saint Grégoire. Et il est mort en 596. Il a été loué comme écrivain par son frère Saint Isidore. Saint Léandre ne nous est connu que par un petit nombre d'ouvrages, mais c'est pas important. il est enterré dans la cathédrale de Séville. C'est un bienheureux cette fois-ci. Bienheureux Jean de Vandière, abbé bénédictin. Un abbé bénédictin vraiment remarquable, oui, vraiment. Il est mort en 973. Il est né à la fin du 9e siècle, donc dans les années 800, dans le village de Vandière, Vandière, c'est sur les limites là, du territoire de Metz et de Toul, disons en Moselle, pour être plus clair, là, au sud du Luxembourg, donc pas tellement loin de l'Allemagne. Ça revient à être à peu près à 300 kilomètres de Paris. Son père était déjà vieux. Il a voulu le garder à ses côtés pour faire lui-même son éducation. Mais quand son père a remarqué les excellentes dispositions que Jean avait pour l'étude, il l'a envoyé dans les écoles de Metz, puis au monastère de Saint-Mihiel, M-I-H-I-E-L, Saint-Mihiel. Le père de Jean de Vandière est mort peu après. Et sa mère, encore jeune, s'est remariée. Alors, le jeune Jean, étudiant, a été rappelé à la maison pour s'occuper de ses frères. Il en a pris grand soin de ses frères, avec une grande compétence. Il a même réussi à augmenter les biens de la famille. Puis il négligeait pas l'éducation de ses frères, dont il avait la charge. Les seigneurs du pays, il y avait encore des seigneurs évidemment dans ce temps-là, comme on en a eu nous-mêmes ici au début de la colonie française, ici sous le régime français, bien les seigneurs du pays, puis l'évêque de Verdun, y étaient informés des succès de ce jeune homme. Son instruction, sa bonté, son dévouement, la discipline, ils ont voulu utiliser sa compétence. Alors, ils ont appelé Jean de Vandière et le comte Riquin l'a gardé plusieurs années dans sa maison, son quasi-château. Il lui a donné en bénéfice l'église de Vandière. On pouvait nommer comme ça abbé, oui, c'est de là que vient... Quand on dit monsieur l'abbé, là, pour les prêtres, c'est de là que ça vient, c'est qu'autrefois, les prêtres... comme des laïcs, d'ailleurs, pouvaient devenir abbés commendataires, c'est-à-dire, ils retiraient les bénéfices d'une paroisse. C'est le trafic de l'argent. Il y avait un gentilhomme, là, qui s'appelait Varnier, V-A-R-N-I-E-R, Varnier. Il lui a confié l'église de Saint-Laurent, qui était située dans le village de Fontenay, près de Toul. Alors, il y avait deux bénéfices. Ça créait à Jean de Vandière des obligations. Mais pour y faire face, il a dû reprendre ses études dans la ville de Toul. Et là, il a eu un très bon maître, un maître vertueux, le diacre Bernier. Alors, il étudiait d'abord la grammaire, puis la Bible, l'Écriture sainte. Il a puisé dans la Bible des leçons de vertu que l'on peut puiser si on veut bien ouvrir sa Bible chez soi et la lire de temps en temps. Aller vers les livres de sagesse, les livres de proverbes, les livres de réflexion, puis vers les évangiles, les épîtres. On lisait donc aujourd'hui l'épître de Saint-Jacques, c'est facile à lire, et ça remue. Hein? Alors il a puisé dans ce livre tout ce qu'il lui fallait de recherche sur les vertus. Et il les a mises en pratique, c'est pas contenté de les lire. Il aimait particulièrement son église de Saint-Laurent, près de Toul, où il passait des jours et des nuits en prière, quand il en avait le loisir, évidemment. Et cependant, il paraissait se plaire quand même dans le monde. Son âme était divisée. Ça arrive souvent, ça, hein? On aime la prière, on aime aller dans des monastères, on se sent à l'aise quand même dans un certain monde. La division se fait pas totalement. C'est peut-être pas de mauvaise chose quand on vit dans le monde. C'est peut-être mieux comme ça. Et pendant son absence, une femme pieuse a pris soin de l'église. Jean de Vandière, le bienheureux Jean de Vandière, entretenait en même temps dans cette église un vieux prêtre de la Beauce. la Beauce française, évidemment, que les invasions normandes avaient chassé. Il était parti d'assez loin, comme vous voyez, pour se rendre jusque près de Toul, au sud du Luxembourg. Et cette femme et ce prêtre, de concert avec le bon diacre Bernier dont je vous ai parlé, là, se sont mis à donner à Jean de Vandières des conseils assez sévères sur ses fautes de légèreté là, qui lui échappaient. Et il écoutait, puis il en tirait profit. Au lieu de se révolter, il essayait de comprendre. Il y a eu une circonstance assez spéciale qui a achevé de le déterminer à mener une vie tout à fait sainte. L'Église, puis le bénéfice dont Jean était pourvu, dépendait de Saint-Pierre de Metz, un monastère de religieuses, où l'évêque avait fait remettre en vigueur la règle bénédictine. Il y avait une jeune pensionnaire dans ce monastère, cette nommée Gèse, qui habitait ce monastère, n'est-ce pas, sous la direction de sa tante religieuse. Et par esprit de pénitence, elle portait continuellement un cilice. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est une petite chemise avec des crins de chevaux, de cheval, et ça rentre dans la peau, ça pique beaucoup. Hein. On pourrait porter un chandail de laine très rude, vous savez, quand ça pique, là. Ça nous arrive, des fois, on se trompe, on met un chandail avec une chemise trop mince, et ça nous pique. Alors, par esprit de pénitence, donc, elle portait ce cilice ou ses habits ordinaires, et Jean ignorait ce qu'était même un cilice, il connaissait pas ça. Et un jour, il causait avec cette jeune fille, Gèse, là, c'est encore un nom rare, mais c'est pas de lait, ce nom-là, hein, Gèse, G-E-I-Z-E, comme 16, mais c'est Gèse. Alors, notre bienheureux a remarqué sur les épaules de cette Gèse quelque chose de sombre, que son habit ne cachait pas tout à fait. Alors, il a porté la main, puis il a senti quelque chose de rude. Alors, il était étonné, puis il a demandé ce que c'était. Alors, la jeune fille, Gèse, elle a rougi. Elle est demeurée un instant muette. Elle a fini par avouer que c'était un cilice. Et comme pour s'excuser, elle a ajouté, « C'est très beau, ça ne savez-vous pas ?» que nous ne devons pas vivre pour ce monde. Les plaisirs que cherchent la plupart des hommes sont la perte des âmes. Pour moi, je veux sauver la mienne. Alors, cette parole a paru tirer Jean de Vandières d'un profond sommeil. Il a poussé un soupir, puis il a dit, « Malheur à moi, malheur à moi !» Je suis lâche. Depuis longtemps, je mène une vie vide. Alors faut-il que cette femme me devance dans le chemin de la vertu? Oh, j'ai honte. Et non seulement je ne la suis pas dans sa démarche vers Dieu, je n'ai pas même le courage de me lever de terre et de faire un pas. C'est vraiment ce qu'on devrait dire quand on veut se convertir. Hein? Et à partir de ce moment-là, à l'instant même, Jean de Vandières s'est mis à mener une vie plus parfaite. À son étude de la Bible et des autres sciences religieuses, il a joint la pratique des jeûnes, des veilles, des prières fréquentes. Il est même allé jusqu'aux macérations. Vous vous demandez ce que c'est, chercher dans le dictionnaire, macération. Oh, on sait que ce que c'est que de macérer quelque chose quand on fait des recettes. Oh, c'est traiter sa chair avec un peu de violence, je pense. C'est pas très, très à conseiller. De toute façon, notre Jean de Vandières aspirait à quitter le monde. Mais son embarras était de trouver un endroit. Alors, par suite des guerres à l'époque, la discipline dans les monastères était bien relâchée, même en Italie. Et Jean se mit en attendant sous la conduite de deux prêtres. Roland, qui était maître de chant à Saint-Étienne de Metz, dans le nord de la France, là, et Varimbert, curé de Saint-Sauveur. Il pouvait mener là une vie réglée, mais c'était trop peu pour son désir de perfection. Alors il est allé trouver un saint, un reclus, un ermite de Verdun nommé Humbert. Il lui a fait une confession générale de tous ses péchés. Avez-vous déjà fait ça, une confession générale de tous vos péchés? C'est extraordinaire. Si vous faites ça dans les mains d'un prêtre qui vous comprend bien, oh, ça prend du temps un peu, hein, mais d'aller au creux, calmement, sans tension nerveuse, simplement s'abandonnant à l'amour de Dieu, en disant que le cœur de Jésus est plus grand que tout. Et vous dites tout, vous libérez tout. Vous savez, on va voir des psychologues, ça coûte une fortune, on fait ça pendant un an pour libérer toutes sortes de choses. On dépense de l'argent sans arrêt. Et on peut aller voir un prêtre, c'est gratuit, il ne demande pas un sou. Hein. Ils sont même heureux de nous recevoir. Et au nom de Jésus, ils nous donnent l'absolution de tous nos péchés. Et ça fait une libération, souvent, la majorité des gens que je connais qui ont fait ça, ont trouvé là un bonheur, une paix. Une paix, d'abord sur le plan psychologique, c'est excellent, si c'est bien fait, évidemment. Et sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan des réalités concrètes spirituelles, il y a un abandon à Dieu, une joie, à nul autre pareil peut-être. Donc il a fait une confession générale de tous ses péchés. On croit qu'il a commencé tout de suite à s'abstenir de viande et à jeûner très rigoureusement. Ensuite il est allé dans la forêt, passer quelque temps auprès d'un prêtre solitaire. Celui-là était nommé Lambert, comme Lambert Clos dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, ce héros de notre histoire de Ville-Marie. Ce Lambert était d'une sainteté reconnue publiquement. Il n'avait aucune régularité dans sa manière de vivre. Sur les conseils de Humbert et d'un Breton nommé André, Jean entreprit le pèlerinage de Rome, finalement, pour trouver d'autres modèles dans les monastères et les ermitages d'Italie dont on parlait beaucoup en France. Il y avait un clerc de l'église de Metz, là, en France, Bernacé, B-E-R-N-A-C-E-R, un autre nom curieux qui est pas si laid. C'était un homme très habile pour chanter, écrire, puis pour calculer aussi, puis l'accompagner dans ce voyage vers Rome. Ils ont visité Rome, évidemment. Ils sont allés au mont Gargano, où je suis déjà allé. C'est pas loin d'où vivait le Padre Pio, ça. C'est pas loin d'où vient notre ami ici, Raphaël Pirro, en sud de l'Italie, du côté de l'Adriatique, là. C'est un mont qui est consacré à Saint-Michel, c'est le mont Gargano aujourd'hui. Donc, ils sont allés là, ils sont allés aussi au mont Cassin. Au mont Cassin, le grand monastère bénédictin. Et puis, dans les solitudes voisines du Vésuve. Oui, le Vésuve, vous savez, c'est le grand volcan qui a enterré Pompéi. Et alors, le bienheureux Jean de Vandière est allé ensuite retrouver à Verdun le reclus Humbert, qui lui a paru le plus apte à lui servir de guide pour se diriger vers le ciel, quoi. Ils ont formé le plan d'un nouveau genre de vie ascétique. Il y avait alors à Toul un saint. C'était l'archidiacre Einold, E-I-N-O-L-D. Je sais pas s'il est comme nom encore. Et touché de l'amour de Dieu, il avait distribué, cet Einold, tous ses biens aux pauvres. Il s'était enfermé dans une cellule qui attenait au cloître de la cathédrale. Un peu comme notre recluse de Montréal, Mademoiselle Lebert, n'est-ce pas? Au temps de Ville-Marie. Et alors donc, il se nourrissait, cet Einold, de ce que l'évêque Gauzelin voulait bien lui envoyer par charité. Il ne sortait de sa retraite que pour célébrer la Sainte Messe et assister à l'office de nuit. Et après un avertissement du ciel, il a vu arriver un jour à ses cellules le fameux reclus de Verdun, Humbert, qui venait le prier de lui trouver une solitude plus tranquille. Alors il s'agissait de former, n'est-ce pas, une communauté solitaire, à laquelle s'adjoindrait notre bienheureux Jean de Vandière et plusieurs membres du clergé de Metz. Alors, ils ne trouvaient pas dans la région d'endroits qui leur plaisaient. Ils songeaient même à se diriger vers l'Italie quand on leur a signalé près de la ville de Metz le monastère de Gorz, où la vie religieuse était en pleine décadence. Alors, il y avait un évêque là qui s'appelait Adalbéron, qui avant de devenir évêque de Metz, avait promis de restaurer ce monastère de Gorz quand il en aurait les moyens. Alors il a résolu de confier cette œuvre à l'archidiacre Einold, et à ses compagnons, Humbert, puis le bienheureux Jean de Vandière, etc., quand ils sont venus prendre congé de lui, et toutes les affaires ayant été réglées, Jean de Vandière et ses compagnons, au nombre de 7, sont entrés à l'abbaye bénédictine de Gorz en l'an 933. On a réparé les ruines qui avaient été causées par les Normands et les Hongrois. Il y a tellement de guerres dans ce temps-là. Par l'autorité de l'évêque, donc de Metz, ils ont fait la réforme qu'ils désiraient. Et puis les anciens moines étaient très heureux de cette réforme. Ils s'y sont soumis très volontiers. Souvent, vous savez, les moines n'attendent que ça, que des saints les réforment pour trouver finalement le bonheur. Se réformer seul dans un monastère, c'est presque impossible. Alors, Reynold, il a été établi abbé, Jean est devenu le procureur, si on veut, l'économe, le scélérier. Il avait 2 frères vivant dans le monde, alors il les a décidé de se retirer auprès de lui, puis a donné à l'abbaye tous ses biens. Tous les biens de son ample fortune, son héritage. Il a attiré même sa mère, qu'il a eu soin évidemment d'entretenir le reste de ses jours dans un appartement en dehors de la clôture. Il était considéré par tous comme le principal auteur de cette réforme monastique. Il a voulu se tenir comme le dernier de la maison et le serviteur de tous. Le bienheureux Jean de Vandière a donné aux frères l'exemple d'une soumission parfaite à l'abbé dans l'exercice de toutes sortes de fonctions qui lui avaient été confiées. Pour mettre à l'épreuve sa patience, son humilité, il souffrait volontiers les reproches les plus injustes, aussi on dit. Et les plus fâcheux, ça arrive souvent qu'on a des reproches. Et qui était souvent l'effet de la mauvaise humeur de ses compagnons moines. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe, hein, la mauvaise humeur dans des monastères, dans des groupes de chrétiens. Ça existe. Très sévère envers lui-même, Jean de Vandière était doux et compatissant vers les autres. Il se refusait les soulagements les plus légitimes que la règle permettait pour retrouver des forces. L'abbé, lui, a employé toute son autorité pour l'amener de temps en temps à modérer ses jeûnes, ses abstinences, qui étaient parfois bien excessives. Et écoutez bien ça, il était envoyé comme ambassadeur à un moment donné, en Espagne. C'est curieux pour un moine, hein? Il était envoyé en Espagne auprès du roi musulman de Cordoue, Abderrahman III. Comment ça se fait qu'il y avait un roi musulman à Cordoue? Vous direz, bien oui, nous sommes au 10e siècle. Les musulmans étaient déjà installés, avaient envahi, étaient passés par l'Afrique du Nord, là. Ils avaient envahi l'Espagne. C'était terrible, ça, cette occupation musulmane de l'Espagne. Vous savez qu'ils sont montés jusqu'à Poitiers, jusqu'en France. C'était épouvantable. Les musulmans n'aiment pas qu'on leur rappelle ça, mais il faut bien l'avouer, ils nous rappellent les croisades et toutes sortes de choses, mais on ne leur en veut pas aux musulmans. Tout ça, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Bon, mais ce sont les faits de l'histoire que je vous raconte, c'est pas pour que vous regardiez d'un œil sévère votre voisin musulman ou l'aimable musulmane que vous rencontrez chez Provigo. Il faut quand même avoir du bon sens, hein. Donc, il est allé comme ambassadeur en Espagne auprès de ce roi de Cordoue, Abderrahman III. Il a rempli cette mission avec beaucoup de sagesse et de courage. Il a fait là une œuvre d'apôtre et de missionnaire, autant que d'ambassadeur. Alors, le roi musulman l'admirait. Et à son retour, vers l'an 960, Saint-Jean est devenu abbé de son monastère de Gorz, qu'ils avaient réformé ensemble. La fin du récit de son biographe a été perdue. On ne sait pas ce qui est arrivé par après. Alors, on ne peut pas vous dire ce qu'il a fait comme abbé durant les 13 dernières années de sa vie. Il est mort en l'an 973, le 20 février. Oui, oui, le 20 février, pas le 27, non, non. Avec Saint Cadroé, il a été le grand réformateur de l'ordre monastique en Lorraine, donc, en France, au 10e siècle. Et les martyrologes bénédictins, car il était bénédictin, le considèrent comme bienheureux, puis le mentionnent au 27 février. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. La vie du bienheureux Jean de Vandière a été écrite par un autre Jean, moine de Gorz, son monastère, qui a été abbé de Saint-Arnoux de Metz. Mais elle n'est pas complète, hein, comme je vous ai dit. je voudrais vous glisser un mot d'un autre saint avant de terminer. Un saint au nom très étrange, saint Galmier. On traduit son nom de différentes façons. Gaumier aussi. Il est né... mon Dieu, il est né en France, dans le Forez. Il s'est retiré tout jeune à Lyon pour y servir Dieu. Il vivait, ce Gaumier, dans une grande simplicité. Il exerçait le métier de serrurier. Il sanctifiait son travail par la prière, la pratique de toutes sortes de bonnes œuvres. Il était très dévoué. Et du produit de son travail, bien, il nourrissait toujours quelques pauvres. Tous les jours. Parfois, on l'a vu offrir ses outils quand il n'y avait plus rien à leur donner. C'est incroyable. Cet homme était droit, sincère, obligeant, affable. Il était prompt à faire tout le bien qui dépendait de lui. Il avait une disposition exceptionnelle. Il joignait à ça une pureté absolument inviolable. Il avait un amour ardent de la vérité et de la justice. Il était appliqué à la lecture des livres saints, de la Bible. Il vivait dans une mortification générale des sens. Il était enjoué, dit-on, dans sa conversation, puis il était ingénieux à porter ses auditeurs à louanger Dieu, à le louanger. Louanger Dieu, c'est ce qu'on devrait faire quand on se réveille, quand on se couche. Et bien insister à la messe, je vous l'ai dit souvent, sur les paroles de la préface. Et bien de te louer, toujours et en tout lieu. Toujours et en tout lieu. Alors, ces grandes et merveilleuses dispositions qu'il avait ont été encore plus remarquées quand il s'est retiré finalement dans un monastère. Et un abbé de monastère qui est devenu évêque de Lyon, qui s'appelait Vivance, V-I-V-E-N-C-E, un autre nom curieux, avait gouverné le monastère de Saint-Just, alors il se l'est fait présenter, puis a discerné en lui un grand serviteur de Dieu, elle lui a fait donner asile au monastère de Saint-Just. Et l'évêque Gaudry, qui était le prédécesseur de Vivance, comme évêque de Lyon, a donné à Galmier l'ordre du sous-diaconat, ce qui fut une grande épreuve pour l'humilité de cet homme, qui a demandé à ne plus être élevé plus haut. Il est resté diacre pour être le... au sous-diacre, il était pour être le patron de nos diacres. Hein. On croit généralement que Saint Galmier est mort le 27 février, le jour où l'on trouve son nom dans presque tous les martyrologes. Son corps, de toute façon, est enterré dans l'église de Saint-Just. Il a toujours été en grande vénération. Ses reliques ont été dispersées par les protestants au 16e siècle, les Huguenots. On a pu néanmoins conserver un bras que possédait l'église de Saint-Galmier dans la Loire. C'est donc un saint qui a dû être honoré par certains de nos ancêtres, car c'est une région dont beaucoup de familles québécoises vivent. On vient beaucoup de la région de la Loire. Hein.